nous voir parce qu'il avait à cœur de partager quelque chose pour nous aider tous à mieux communiquer avec les personnes qui n'ont pas la foi chrétienne autour des questions qu'ils peuvent nous poser. C'est ça, hein ? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il va vous dire parce qu'il va vous présenter tout ça mieux que moi. Mais on voulait faire ça régulièrement. Donc, une fois par mois, on va prendre un moment, 10 minutes à peu près, pour réfléchir à ce genre de questions, pour qu'on reste quelque part dans cette optique-là, de ne pas rester recroquevillé sur nous-mêmes. C'est utile pour nous, pour notre foi, parce qu'on grandit en se posant des questions, mais c'est aussi pour pouvoir rester dans le bain. Et puis si vous êtes là, vous venez régulièrement à l'église et que vous êtes curieux, mais que vous ne croyez pas, c'est l'occasion aussi de voir peut-être certaines questions que vous avez trouver une réponse ou une tentative, du moins. Voilà, c'est bon ? C'est clair ou pas ? Je passe la parole à Dan.
Merci, Timmy. Bonjour tout le monde. On a pas mal de choses à aborder ce matin, en 10 minutes, donc je vais commencer tout de suite. Donc oui, comme Timmy vient de le dire, on commence une série aujourd'hui, une série de 10 discours au fil de l'année scolaire. Et cette série répond au sondage IFOP qui s'appelle « Le rapport des Français à la religion » qui s'est fait en août 2021. Et il n'y a rien de choquant dedans, mais ça ouvre les yeux quand même de voir les statistiques comment les Français ont répondu à ce sondage. Donc le plan pour aujourd'hui, c'est de vous partager 3 observations que j'ai des statistiques là-dedans et puis parler de la suite de la série dans les mois à venir. Donc c'est que ça. Mais on commence, on peut changer au diapo avec les 3 observations. Donc on commence avec les 3 observations que j'ai des statistiques. C'est 1, un manque de conversation spirituelle parmi les Français. 2, que les Français voient en gros que la religion est plus d'actualité aujourd'hui. Et 3, qu'il semble y avoir une ouverture unique aux discussions spirituelles chez certaines personnes. Donc, commençons avec la première observation. C'est un manque de conversation spirituelle et change de diapo. Donc, la première question qu'on va aborder du sondage, c'est « Vous arrive-t-il de parler de votre religion ou de sujets se rapportant aux religions ?» Et ici, on regarde les réponses des Français en général. Et on va comparer l'année 2009 à 2021. Donc, les gens qui ont répondu à cette question, vous arrive-t-il de parler de la religion ou des sujets se rapportant à la religion? Les gens qui ont répondu, oui, en famille, ça m'arrive souvent ou de temps en temps. En 2009, c'était 58% des personnes. Et en 2021, c'était 38% des gens. Donc, on peut reconnaître que c'était un peu après Covid. Donc, ça risque d'avoir un impact sur les statistiques. Mais quand même, c'est une baisse de 20% en 12 ans. Et si on passe au contexte avec les amis, les gens qui ont répondu oui, ça m'arrive de temps en temps ou souvent de parler de la religion avec mes amis. L'année 2009, c'était 49% des gens. En 2021, 29%. Encore une fois, une baisse de 20% en 12 ans de temps. Mais ce qui m'a frappé, m'a parlé le plus, c'était que ça veut dire qu'en 2021, pour les Français en général, on parle pas des Français non religieux, mais juste les Français en général, ça veut dire que 71% des Français ont répondu rarement ou jamais. 71% des Français parlent rarement ou jamais de la religion. Et en fait, c'était 40% des Français qui ont dit jamais avec mes amis. Donc ça veut dire que presque la moitié des Français ne parlent jamais de la religion ou les sujets se rapportant à la religion avec leurs amis. Pour moi, c'est parlant, ça dit quelque chose. Un diapo. Donc le point clé pour nous que je vois ici, c'est que évidemment que les Français discutent des sujets se rapportant à la religion très rarement. Mais pour moi, ça veut dire aussi que probablement, ils y réfléchissent assez rarement aussi. Donc, comment est-ce que c'est pertinent? Comment est-ce que c'est pertinent pour nous? Donc, je vais partager un exemple personnel très, très rapidement. Mais j'ai un ami ici à Montpellier qui est athée. On passe pas mal de temps ensemble. Il est un ami proche. Et une fois qu'on mangeait ensemble, il m'a dit, Don, j'apprécie passer du temps avec toi parce que chaque fois qu'on passe du temps ensemble, j'apprends des choses sur moi-même et sur ce que je crois parce que tu me poses des questions que je ne me pose jamais. Et je pense que là, c'est la pertinence pour nous en tant que chrétiens. Si les gens réfléchissent rarement à la religion, ils en parlent très rarement aussi, nous, nous avons l'opportunité, je dirais même la responsabilité, à poser des questions, à entamer des conversations spirituelles et à les aider à réfléchir même à ce qu'ils croient et pourquoi. Et finalement, nous avons l'opportunité de les amener à réfléchir à ce que la Bible dit de la vérité. Ça, c'est la première observation, manque de conversation spirituelle. Deuxième observation, la religion, plus d'actualité. Diapo, s'il te plaît. Donc, on a ici du sondage, tiré du sondage, trois affirmations avec les réponses des Français non religieux. Donc, c'est les gens sur le sondage qui se sont identifiés comme sans religion. Donc, première affirmation, les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives, respect de l'autre, tolérance, générosité, responsabilité. 56% des Français non religieux ne sont pas d'accord avec ça. Diapo, prochaine affirmation, le message et les valeurs du christianisme sont toujours d'actualité. 76% des Français non religieux ne sont pas d'accord avec ça. Et diapo, troisième affirmation, les religions peuvent contribuer positivement au grand débat de société, bioéthique, moralisation d'économie, famille. Encore une fois, 76% des Français non religieux ne sont pas d'accord avec ça. Peut-être que c'est choquant, peut-être que ça confirme ce qu'on croyait avant, mais quand même, pour moi, ça ouvre les yeux un peu. C'est parlant. Donc, le point clé pour nous, diapo, c'est que les sans-religions croient largement que la religion et le christianisme spécifiquement sont plus d'actualité dans le quotidien d'aujourd'hui. Et donc, la pertinence pour nous, c'est que nous avons l'opportunité, et encore une fois, je dirais la responsabilité, de les aider à voir la pertinence du christianisme, de ce que la Bible dit, de Jésus lui-même. Et on le fait, je dirais, on le fait avec un engagement intentionnel, plein d'amour et bien réfléchi. Un engagement avec le monde autour de nous qui est bien réfléchi. C'est-à-dire qu'on le fait avec notre amour et avec notre intelligence. Et on va insister sur ça dans cette série, comment en parler de manière bien réfléchie. Ça, c'est la deuxième observation. Troisième observation, une ouverture aux discussions spirituelles. On peut changer de diapo. Donc, on revient à la question, vous arrive-t-il de parler de votre religion ou des sujets se rapportant aux religions? Mais cette fois, on regarde cette question par tranche d'âge. Donc, les gens qui ont répondu, encore une fois, dans le contexte de famille. Oui, en famille, ça m'arrive d'en parler souvent ou de temps en temps. Pour les 35 ans et plus, 31% des gens. Pour les moins 35 ans, 51%. 20% plus de personnes chez les 35 ans ou les moins 35 ans, les plus jeunes, dont je ne fais plus partie malheureusement, je suis plus jeune. On change de diapo et dans le contexte avec nos amis, chez les 35 ans et plus, 25%. Les gens ont dit oui, ça m'arrive de temps en temps ou souvent d'en parler. Mais chez les moins de 35 ans, c'était 42%. Et surtout, les 25 à 34 ans, c'était 48%. Beaucoup plus de personnes parlent autour d'eux, en famille et avec leurs amis, chez les moins 35 ans. Donc, une diapo, s'il te plaît. Donc, pour moi, il semble y avoir une ouverture unique chez les moins de 35 ans en France. Et surtout les 25 à 34 ans. Et la pertinence pour nous, c'est tout simplement que c'est une opportunité d'engager les plus jeunes parmi nous, qui sont plus habitués et peut-être plus ouverts aux discussions autour de la religion. Une diapo. Donc, pour résumer les trois observations et les trois opportunités qui viennent avec. Première observation, le manque de conversation spirituelle chez les Français en général. Nous, nous avons l'opportunité de poser des questions autour de la religion et d'entamer des conversations spirituelles. Deuxième observation, religion, plus d'actualité, selon les Français non religieux. Et nous, nous avons l'opportunité d'aider les gens, les accompagner. On ne lutte pas contre les gens. Nous, on n'est pas contre les non-chrétiens ici. On ne lutte pas contre eux, mais on aimerait les aider à voir la pertinence du christianisme, de la Bible de Jésus. Et troisième observation, c'est cette ouverture parmi les moins de 35 ans. Et encore une fois, on a l'opportunité de les engager spécifiquement en tant que tranche d'âge. Donc, c'est les statistiques que j'ai trouvées particulièrement parlantes dans le sondage. Et donc, c'est un peu la base. Mais par rapport à la suite de cette série dans les mois à venir, c'est quoi la réponse de cette série au sondage? Ce qu'on va faire, on va prendre des valeurs estimées par les Français globalement. Évidemment, chaque Français est différent, mais normalement, dans une culture, on a certaines valeurs qui sont estimées plus que d'autres. Et j'ai parlé avec les anciens aussi. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas l'Américain qui a dit « Ah oui, voici les valeurs estimées en France ». Mais non, j'ai parlé avec les anciens pour trouver des valeurs qui résonnent peut-être avec les Français. Donc, on va prendre ces valeurs, on va les aborder d'une à la fois, d'un point de vue biblique, pour parler de la pertinence du christianisme par rapport à cette valeur. Et dans le but d'aider les Français à voir, selon certaines valeurs estimées par eux, la pertinence du christianisme, de voir le christianisme comme pertinent et plausible, que ça a du sens. En fait, oui, c'est plausible, c'est faisable, cette idéologie chrétienne. Donc pour finir, pardon, dernière diapo, je pense que je ne vous ai pas fait signe, mais dernière diapo, les trois buts qu'on a pour cette série. Le but, c'est de démontrer la pertinence du christianisme, de la Bible. Que ce n'est pas réservé pour à l'époque, quand les gens le croyaient, mais que c'est pertinent aujourd'hui. Mes trois buts, de faire réfléchir les non-chrétiens parmi nous, qui y réfléchissent rarement, qui en parlent rarement. Deuxième chose, c'est d'encourager les chrétiens ici, qui ont peut-être des doutes par rapport à la pertinence de la Bible, du christianisme aujourd'hui. Ça peut nous arriver aussi. Donc c'est pour encourager les chrétiens ici qui ont des doutes. Et troisième but, c'est d'équiper les chrétiens, de nous équiper, de nous donner des pistes, des idées pour pouvoir parler de Jésus autour de nous. J'espère que c'est nous tous en tant que chrétiens qui aimeraient parler de Jésus autour de nous. Donc on aimerait nous aider à le faire avec plus de confiance, plus de pertinence et de manière très bien réfléchie et bien exprimée auprès des non-chrétiens. Donc voilà la base de la série et je pense que la prochaine fois sera la liberté comme valeur. Donc oui, merci beaucoup et je passe le micro, je crois, à Timmy.
Merci, Don. Pardon. Rebonjour. Merci à la technique. Alors, qui ici fait partie d'un groupe maison ou l'année dernière faisait partie d'un groupe maison? Moi, je faisais partie de l'année dernière à Compaison. Toi aussi, tu peux lever la main. Ouais. Qui ici aimait ça? Ah, bien. J'ai payé personne. Hein. Non, aujourd'hui, on va parler des groupes de maisons. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous inquiétez pas, on va avoir le temps d'en parler. Mais pour en parler de manière plus efficace, j'ai demandé à quelqu'un d'autre que moi d'en parler. Si Jean-Noël, tu peux venir. Et nous parler de ton expérience du groupe Maison et de voilà, ce que tu as pu en retirer.
D'accord. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël. Je fais partie du groupe de Mogio. Voilà, où ça m'a apporté beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, de tout ce qui est autour du Seigneur. Vraiment, ça m'a rempli le cœur de bonheur. On se rencontre tous les mardis, une fois tous les 15 jours, c'est ça. Donc voilà, on est un groupe, on mange ensemble. Donc vraiment, ça, on peut partager plus de choses ensemble. Ouais. Et puis voilà, on est vraiment une petite famille. On est déjà une grande famille à l'église, mais là, le groupe de maison, on est vraiment une petite famille un peu plus soudée. Vraiment, on se ressent beaucoup de bonheur.
Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ?
Eh ben, ça m'a apporté qu'on parle sur des sujets comme le pardon, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le pardon, l'amour du Seigneur. On parlait un peu de tous les sujets. Oui, ça m'a beaucoup appris à pouvoir prier à haute voix. Une chose que je ne faisais pas au début. J'ai mis longtemps avant de pouvoir prier à haute voix. Donc ça m'a appris ça. Voilà. Et puis ça m'apprend aussi à être plus humble en moi. Plus... Voilà.
Merci Jean-Noël. Voilà, esprit de famille, apprentissage, soutien, voilà, partage. C'est l'esprit dans lequel on pense ces groupes de maison. Donc concrètement, un groupe de maison, c'est quoi ? C'est en semaine un groupe qui va se retrouver, qui s'est engagé l'un avec l'autre, les uns vers les autres plutôt. À faire un bout de chemin ensemble et à faire tout ce que Jean-Noël nous a dit et à être dans ce partage de la foi, partage du quotidien, des défis, de la prière. Donc quand je parle de groupe maison, ça va être de ça. Mais d'où ça vient ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé, quelque chose où on s'est dit voilà, on s'ennuie en semaine, on va faire ça ? Non, ça vient pas de là. Est-ce qu'on peut mettre le texte, s'il vous plaît ? Je vous propose de regarder dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, ça se situe juste après que Jésus soit remonté au Père. Et ce passage-là, dans Actes 2, c'est juste après la Pentecôte. Donc, Jésus vient sur Terre, Noël, il fait tout ce qu'il fait, il guérit les malades, il prêche, il va sur la croix, il ressuscite. Il remonte au ciel, je vous la fais très rapidement. Et puis, en partant, il dit « Allez à Jérusalem, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et donc, ils attendent 40 jours. Au bout de 40 jours, le Saint-Esprit descend sur eux, les remplit de l'Esprit, ils parlent en langue. Et puis, Pierre prêche. Pierre l'apôtre prêche à la foule, et il y a 3000 personnes qui sont sauvées. Et c'est là qu'on va, juste après ça, qu'est-ce qui est écrit ? Actes des Apôtres 2, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et ils faisaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Donc, ça c'est le descriptif de la première vie, quelque part, de l'Église. Le premier mois, les premières années de l'Église, c'est ça. C'est ça. Je ne vais pas vous relire le texte. Donc, quelque part, je vous invite à retourner aux racines de l'Église pour voir qu'est-ce qu'on y trouve. Et pour vous montrer que nous, notre proposition pour la source, de comment appliquer ces principes dans l'ADN de l'Église, avec un grand E, hein, l'Église universelle, qui s'applique de manière différente pour chaque culture, c'est normal. On va pas aller au temple. Voilà, on va pas aller au temple de Jérusalem, ça ferait trop loin tous les jours. Donc on doit appliquer les choses à notre culture, à notre géographie. Et donc notre manière de l'appliquer, c'est vous proposer des groupes maisons. Mais pour ça, il faut voir sur quelle valeur ça se repose, cette proposition. Ce n'est pas juste quelque chose en l'air. Pas quelque chose pour vous dire « vous n'êtes pas dans un groupe maison, vous êtes des mauvais chrétiens ». C'est où est-ce que ça s'appuie. Et pour ça, je vais surtout me focaliser sur les deux derniers versets, 46 et 47. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est question de la maison. Il est question de la maison. Les chrétiens se regroupent dans une maison, dans des maisons. C'est quoi la maison? Comme l'a dit Jean-Noël, c'est la famille, c'est l'intimité. C'est la proximité. Hein. Dans une maison, je ne serai pas à 20 mètres de Louise. Sauf si vous avez une méga maison. Mais généralement, quand on se rencontre, c'est dans un salon. C'est assis l'un à côté de l'autre sur un canapé. On passe du temps ensemble. On se connaît. On se touche. C'est cette proximité, cette intimité qui est là. On est les uns avec les autres. Avant, ils parlent de tout, ils partagent tout. C'est l'esprit de famille. Et l'esprit de famille, ça se déroule dans une maison. Donc on va vous inviter à retrouver cet esprit de famille, parce que quand on est 80-100 dans une grande pièce, après, on mange un apéro, c'est cool, mais c'est pas pareil. Ce que Jean-Noël nous disait, c'est pas pareil. On est une grande famille, mais là, dans cet endroit-là, groupe maison, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette maison? Ils rompaient le pain. Ils rompaient le pain. C'est quoi? C'est la scène. C'est la sainte scène. Ils prenaient le pain, ils prenaient le vin. Et ça, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la croix. C'est Jésus qui dit à chaque fois que vous vous réunissez entre vous, faites cela en souvenir de moi. Donc, moi, pendant un moment, dans mon groupe maison, j'avais dit, on va essayer de prendre la sainte scène à chaque fois. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que j'y pensais pas. Mais je vous invite à le faire, en fait. Je vous invite à le faire parce que, personnellement, je pense que ça a beaucoup plus de sens de le faire assis à côté de quelqu'un sur un canapé ou autour d'une table, il y en a qui mangent ensemble, que là, en église complète. Ça a du sens, c'est pour ça qu'on le fait, hein. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens. Mais il y a quelque chose de plus... Je me rappelle avec toi, à côté de toi, que Jésus est mort et il est ressuscité pour nous deux. Parce que notre rencontre du groupe maison, elle n'est pas centrée sur nous. Elle n'est pas centrée sur le fait que je m'entends bien avec Amel et du coup je la rencontre le mercredi soir, même si je m'entends bien avec Amel. Non, elle est centrée sur Christ. Elle est centrée sur Christ. Et quelque part, ce que vous allez trouver dans un groupe de maison, c'est à premier abord énormément de diversité. Dans mon groupe de maison, j'ai appris à rencontrer une retraitée qui avait été journaliste en Angleterre toute sa vie. Une autre, son amie qui avait été prof de sciences anglaises aussi en Angleterre toute sa vie. J'ai aussi rencontré un Brésilien qui était venu faire sa thèse. J'ai rencontré des gens qui aiment le vin et le foot. Et à côté de moi, il y avait Lydia qui aime bien faire des boucles d'oreilles avec des fleurs et aller faire du théâtre. On était tous ensemble. On était tous ensemble. Mais en vrai, toutes ces différences, elles sont accessoires par rapport au fait qu'on était là parce qu'on croyait en Dieu. Parce qu'on était là pour se rappeler de Christ. Et donc même les jours où j'oubliais d'amener le jus de fruits et le pain, on était quand même centré sur Christ. Et on avait toujours un moment où on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que quand moi je m'assois aux côtés de toute cette diversité de personnes, et ben, je vois plus que juste ces différences. Je vois qu'en vrai c'est mon frère, c'est ma sœur. Et il y a un partage bien plus profond que je pourrais avoir avec mes collègues éducateurs spécialisés, un peu rebelles dans l'âme, que je vois tous les jours au travail. Au final, je suis moins proche d'eux que j'étais proche de toutes ces personnes dont je vous ai parlé. Parce qu'on est centré autour de Christ. Et c'est cette unité dans la diversité qu'on va retrouver. Plus on est proche des gens, plus on la retrouve. Et donc, groupe maison. C'est pour ça qu'on vous invite à aller dans un groupe maison. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette église au début? Ils prenaient un repas, ils mangeaient ensemble. Ils mangeaient ensemble dans la joie et la simplicité. Ça, c'est la communion fraternelle. Il y a un groupe qui mange ensemble, c'est chaque fois que vous faites. Il y a une invitation à manger à chaque fois que le groupe se réunit. C'est super. Oui, mais pareil. C'est pour passer encore plus de temps ensemble que vous venez une heure avant. Mais non, s'il n'y a pas un repas dans chaque groupe, il y a un temps de convivialité systématique. Et on a parlé à chacun des groupes et à chaque fois, et on nous dit, mais c'est important. C'est important pour nous juste de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître. Pas forcément juste de lire la Bible, de prier ensemble, mais aussi juste de dire bah, comment s'est passée ta semaine. Est-ce que, voilà, ah, t'as mal aux jambes, t'as allé courir hier. Ça, c'est moi, j'ai mal aux jambes. Et juste passer du quotidien avec les gens. Parce que, quelque part, c'est notre valeur de fraternité, de famille. Il faut passer du temps pour ça. Et ça ne sort pas de nulle part. C'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les premiers chrétiens? Ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité. Juste simplement être avec les gens. Apprendre à les connaître, apprendre à les aimer. Et quelque part, ça nous permet... Si on dit juste on va ouvrir la Bible ensemble, si on dit juste on va être redevables les uns des autres, on ne va pas y arriver. Par contre, si je connais vraiment quelqu'un et que je passe par un moment difficile, je vais pouvoir lui dire « Ouais, là c'est difficile, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Ou « Je ne sais pas, moi j'ai péché, aide-moi. » Je ne vais pas dire ça avec n'importe qui. Par contre, si on a passé X heures à manger ensemble et juste à discuter, ça sera possible. On continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ces deux versets? Début du verset 47, « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. » Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons? Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons? On a du temps fraternel, on est centré autour de Christ, mais on loue Dieu aussi. On loue Dieu parce qu'on chante ensemble, on loue Dieu parce qu'on remercie Dieu dans nos prières, on loue Dieu parce que... Parce qu'on se met à genoux, à son écoute quelque part, en se disant « mais forme-nous ». On loue Dieu parce que, plus que juste dans la louange chantée, j'aimerais vous dire, c'est plus que ça. C'est, la louange envers Dieu, c'est toute ma vie. Est-ce que la manière dont je vais au travail, je loue Dieu? Est-ce que la manière est une louange à Dieu? Est-ce que dans mes pensées, si... Tout le monde savait ce que je pensais. Est-ce qu'on se dirait « Ah là, ces pensées louent Dieu ». Quelque part, ça parle du caractère. Ça parle de qui je suis. Est-ce que mon être est une louange? L'apôtre Paul dans Romains, il nous invite à être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Une odeur agréable par ma vie. Est-ce que ma vie a une odeur agréable à Dieu? Est-ce que ma vie est une louange à Dieu? D'où est-ce que je sors ça? Parce que juste après, c'est écrit... qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Ils n'avaient pas la faveur de tout le peuple parce qu'ils chantaient chez eux. Ils avaient la faveur de tout le peuple parce que Dieu avait transformé leur cœur. Il avait transformé leur cœur à travers la louange, il avait transformé leur cœur à travers la fraction du pain, à travers la fraternité qu'ils avaient les uns avec les autres, cette intimité, cette proximité. Et au fur et à mesure, ça transforme la vie du chrétien. On est transformé quand on vient le dimanche aussi. Mais quand on, c'est le fer aiguise le fer, on dit. Quand on est avec les frères et sœurs et qu'on est au contact d'autres chrétiens, dans une vraie proximité, c'est là que le caractère est grandi le plus. Et c'est ce que Jean-Noël nous a dit aussi. Il nous a dit comment il avait appris à prier. Il nous a dit comment il avait juste grandi en connaissance au travers des discussions. Parce que nous, le dimanche matin, nous, les prédicateurs, on arrive, on vous donne les choses, on vous balance 40 minutes de paroles sur la tronche. Mais quand on en reparle derrière avec un ami, avec quelqu'un à qui on a confiance, c'est là où vraiment ça peut vraiment prendre racine dans le cœur et que notre caractère est transformé. C'est là où on peut dire « j'ai pas compris trop » ou « moi j'ai un défi dans ma vie avec ça ». C'est pas le dimanche matin que vous allez faire ça. C'est dans la maison. Donc je vous invite vraiment à faire partie d'un groupe maison, quoi. Si vous n'avez pas compris ce que j'essaie de faire, je comprends pas. Donc, ils avaient la faveur de tous. Et après, c'est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour à l'Église, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est Stuart. De quoi ça parle, ça ? Chaque jour, l'Église grandit. Chaque jour, ceux qui ne connaissent pas Christ arrivent à le connaître. Ça parle de ce que Don vient de nous dire. Ça parle de ces pourcentages qui sont en fait des hommes et des femmes derrière, qui ne connaissent pas Christ et qui arrivent à connaître parce qu'il y a des gens qui viennent leur parler. Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment transformés de l'intérieur que ça se voit même sans parler. Combien de fois on a entendu des gens dire « mais quand je suis venu dans l'église, il y avait quelque chose là, il y avait quelque chose. Pourquoi ? Pourquoi il y avait quelque chose ? Parce que Dieu est là, parce que Dieu est en nous, et même sans dire les choses, eh ben, ça se voit. » Et donc je vous renvoie vers comment est-ce qu'on fait pour être transformé comme ça de l'intérieur. Mais je vous renvoie aussi vers la responsabilité de l'église. Je vous renvoie vers le... J'ai du mal à me concentrer avec l'ours qui est derrière. C'est moi qui lui ai proposé le jeu en plus. Non, je veux vous parler du royaume de Dieu. Je veux vous parler du royaume de Dieu parce que quand Jésus est venu sur terre, il est venu avec un message. Il est venu, il a guéri des malades, il est venu, il a formé ses disciples. Mais il est venu dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et ça, on le voit dans tout, du début à la fin, jusqu'à l'envoi de ses disciples avant de repartir. Il dit « Allez, faites des disciples. Allez-y, dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Il est accessible. » C'est ça que ça veut dire « proche ». Le royaume de Dieu est accessible. Le fait que Dieu puisse agir, que la puissance de son désir, de son plan, peut avoir un effet dans nos vies, autour de nous, c'est ça son royaume. Et c'est proche, c'est accessible, ça. Et du coup, il envoie ses disciples. Allez-y, dites pareil, dites-le, partagez-le. Et ça, c'est dans l'ADN de l'Église, parce que c'est dans ce que Jésus nous a demandé de faire. Et donc, cette année, on a parlé avec chaque... Je dis « on » parce que je vais vous parler après de notre projet pour l'année, et Sébastien, il en fait partie. Mais on a parlé aux responsables de groupe maison en leur posant la question. Comment vous envisagez d'aller ? Parce que je pense que l'ADN de l'Église, l'ADN du groupe maison, c'est aussi ça. C'est le royaume. Le royaume de Dieu, c'est quand je vous parlais de transformation du caractère, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui agit dans ma vie et son royaume se répand dans ma vie. Et puis, comme Lydie nous en a parlé, là, toute la tristesse, je peux la déposer, toute la honte, toute la peur, mon péché, je peux le déposer devant Dieu. Et à chaque fois que je fais ça, le royaume de Dieu avance dans ma vie. Mais il avance aussi en dehors de ma vie. Il avance aussi en dehors de l'Église. Et du coup, si je veux être en marche pour que le royaume de Dieu avance, si je veux être en marche dans cette mission que Jésus nous a confiée, c'est étrange, mais Dieu nous demande de faire des choses, il s'appuie sur nous pour faire des choses. Mais si je veux être en marche là-dedans, ça implique aussi d'aller en dehors du groupe maison ou d'inviter des gens de l'extérieur à rentrer. Pourquoi ? Parce que le but, c'est que chaque jour, des nouvelles personnes soient ajoutées à l'Église. Ça, c'est l'Église en marche. L'Église en marche, elle attire d'autres personnes. Pas parce qu'on les force. Pas parce que si on ne va pas parler à trois personnes cette semaine de Christ, et ben on est des mauvais chrétiens, on va aller en enfer. Non, parce que c'est dans l'essence de l'Église, c'est dans l'ADN, c'est dans la fondation de l'Église, c'est ça, dans la fondation du chrétien, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux ne pas dire à mon collègue, mais il y a un trésor là, c'est tout. Si tu me dis que tu ne le veux pas, tu ne le veux pas, mais moi je te l'ai donné. Moi ça ne me change rien que tu le prennes ou pas, mais sache qu'il est là. Et si tu penses qu'il n'a pas de valeur, ben laisse-moi te dire sa valeur. C'est pour ça que tous les mois, on va en parler. C'est quoi la valeur de cette bonne nouvelle? Comment ça peut être pertinent pour nos vies aujourd'hui? Parce que ça l'est. Donc tous les mois, on va voir ça. Et les groupes maison, je vous encourage dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous savez faire, de le faire aussi. Parce que le royaume de Dieu est en train d'avancer. Et on est invité à faire partie de ça. Et enfin, ça va. C'est dans quel verset? J'aimerais vous parler d'un mot pour finir. Ah oui, non, j'ai pas noté le verset, je suis perdu. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Chaque jour, avec persévérance. Avec persévérance. Parce que c'est pas facile. Parce que c'est pas facile de se dire chaque jour je me lève et je suis dans cette démarche. C'est pas facile de se dire tous les dimanches eh ben, je laisse de côté ma grâce matinée. Et du coup ça veut dire que le samedi je peux pas sortir peut-être comme j'aimerais. Ou voilà, chaque dimanche je laisse de côté ma grâce matinée, ma matinée. Chaque mercredi, chaque mardi, eh ben, généralement c'est une fois sur deux. Mais à chaque fois qu'il y a groupe maison, je donne une soirée quelque part. J'abandonne mes projets de Ligue des Champions. Non, ça c'est pas. Il y en a qui le font pas, mais c'est pas un jugement. Non. Il y a cette persévérance. Pourquoi il y a cette persévérance? Parce que c'est pas facile. Ça coûte. Ça coûte de s'engager dans quelque chose. Parce que c'est bien de ça qu'on parle. C'est d'un engagement. C'est d'un suivi de quelque chose. C'est pas juste un truc qu'on fait une fois et puis après c'est bon, on a coché la case. Non, c'est une vie dans laquelle je m'engage. Comme je vous ai parlé, je m'engage pour le royaume de Dieu. Ma vie est appelée à ne pas être ce qu'elle aurait été sans Christ. C'était compliqué cette phrase. Hein. Ma vie, je répète, ma vie n'est pas appelée à être ce qu'elle aurait été si je ne connaissais pas Jésus. Et du coup, ça change le quotidien, ça change chaque jour. Et du coup, il y a une persévérance à rester là-dedans. Je ne sais plus où c'est écrit, je pense que c'est Paul qui a écrit « Rattraper le temps, racheter le temps, racheter le temps. » Parce que si je ne le rachète pas, et ben il va s'évaporer quelque part. Et je regarde en arrière de ma journée, je dis, mais en fait, elle a servi à rien cette journée. Donc, chaque jour, c'est un effort de persévérance, d'être dans cette démarche-là. Et du coup, ça demande un engagement personnel avec soi, mais ça demande aussi un engagement avec l'autre. Parce que si on parle du corps de Christ, on a besoin chacun des... Si on dit que chacun d'entre nous est un membre du corps et que sans ce membre du corps, le corps ne fonctionne pas normalement. Qu'est-ce que ça fait si vous n'êtes pas là? On a besoin de vous, on a besoin de moi, mais on a besoin de vous, chacun d'entre vous. Et le groupe maison encore plus. Parce que si on est 10 et il manque 5 personnes, et ben c'est pas la même chose. Ou si on a un groupe de 8 personnes qui est là régulièrement et une personne qui vient une fois tous les 5-6 fois, et ben quand elle est là, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop se livrer. Et puis la personne qui vient rarement, elle n'ose pas trop non plus, parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne me connaît pas. Donc c'est un engagement l'un envers l'autre, c'est un engagement envers le groupe. Stuart nous a parlé de s'engager dans l'église, dire que ouais, y a besoin, mais dans le groupe maison, je pense que c'est tout aussi fort. On a besoin de se dire, moi j'appartiens à ce groupe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être absent. On peux dire, même si juste, oh, je suis vraiment trop fatigué, mais la question, c'est l'engagement. C'est est-ce que je me dis, ouais, moi, je fais partie de ce groupe, j'ai besoin de ce groupe a besoin de moi, et donc même les jours où c'est bof, j'ai pas trop envie, je vais quand même y aller, quoi. Je me bouge. Pourquoi ? Pourquoi je ferais ça ? Parce que c'est dans les valeurs de qui je suis, c'est dans l'ADN du chrétien. D'être dans une maison, d'être proche des autres, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? D'avoir des moments conviviaux, dans la joie et la simplicité, de louer Dieu, de se rappeler de Christ. Non ? Vous êtes avec moi ? Est-ce que ça a du sens pour vous tout ça ? Je ne veux pas que ce soit lourd non plus. Je veux que vous puissiez saisir le sens, ouais, merci. Le fait que c'est pas juste une réunion de plus, c'est pas juste une activité comme ça, que ça vient se fonder vraiment sur l'ADN de l'Église. Là, je vous renvoie à Acte 2. Ça vient se fonder sur l'ADN de qui, qu'est-ce que c'est l'Église. Et du coup, je vous encourage à en faire partie. Nous, on vous propose ça. On aurait pu proposer autre chose. Si vous avez d'autres idées, venez nous voir. Je sais qu'il y a des gens qui se rencontrent sans être dans ce cadre de groupe maison, et c'est bien, et on ne va pas le décourager. Mais nous, on vous propose d'une façon organisée ce système-là. Et donc, on vous encourage vraiment, si vous pensez que vous faites partie de la source, dans la mesure du possible, à faire partie d'un groupe maison. Parce que c'est là que vous allez vraiment participer à l'Église d'une manière pleine, on va dire. Ou un peu plus pleine. Ouais. Mais c'est pas un poids. Il y a des gens qui ne peuvent pas en semaine. Il y a des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, et c'est pas possible. C'est pas un poids. Okay. Si vous êtes en retard de temps en temps, si vous êtes absent de temps en temps, on ne va pas venir vous fliquer, on n'a pas des feuilles d'émargement, on n'a pas... Vous voyez ? Ça reste la famille, ok ? Ça reste la famille. Et si je ne suis pas à mon réunion de famille ce Noël, je ne suis pas en dehors de la famille pour autant. Je manque quelque chose, ma famille manque quelque chose, mais je fais quand même partie de la famille. Et j'ai confiance que mes parents, mes frères et sœurs ne vont pas arrêter de m'aimer si je ne suis pas là à Noël. Et c'est pareil pour vous, si vous n'êtes pas partie d'un groupe maison, ce n'est pas ça. Mais je voulais juste vous montrer peut-être un aperçu de ce que c'est vraiment et de vous encourager à rentrer là-dedans. Donc, quelle heure il est ? Concrètement, comment on s'organise à la source ? Est-ce que Sébastien est là ? Je l'ai vu ce matin. Ah, il est reparti avec Elias. Sébastien et moi, nous allons soutenir les responsables des groupes maisons. Okay, je ne vous rentre pas trop dans les détails, mais si vous avez une question pour rechercher un groupe maison, si vous avez une question de fonctionnement, vous pouvez venir nous voir. On va appeler, on est messieurs groupe maison, si vous voulez. Mais les personnes vraiment vers qui je vous invite à vous tourner, ça va être les responsables des différents groupes. Donc, j'ai quelques diapos. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine ? Je vais vous faire la liste des groupes. Voilà, le groupe de Boirargues. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans le groupe de Boirargues l'année dernière ? Très timide. On a mis entre guillemets Boirargues parce que c'est plus Boirargues. Ça ne, il va pas, il va se, c'est un groupe qui va se réunir, comme on l'a écrit, à Pérol, au Valy. Et quartier Gare Saint-Roch, je savais pas trop c'était quoi vos quartiers. Peut-être Pierrette. Mais bon, ça s'appelle Gare, c'est le quartier de la Gare. Je ne me suis pas trompé. qui va se retrouver le mardi, une semaine sur deux, et qui va être animé par Paul, Hélène et Olivier, qui ne sont pas là. Ils ne sont pas là, donc je voulais vous les présenter, mais ils ne sont pas là. Paul m'a envoyé une photo, mais j'ai oublié de la mettre sur le diapo. Voilà, c'est des gens géniaux. et donc ils vont faire dans trois endroits différents. Si vous pouvez que être dans un des endroits ou des endroits et pas Pérol par exemple, il n'y a pas de gros soucis. Mais voilà, ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, s'il vous plaît. Groupe de Castelnau. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans le groupe de Castelnau l'année dernière ? aussi. Je m'attendais à un peu plus de chauvinisme des groupes, genre... En même temps, vous êtes que trois aussi ce matin. Alors, le groupe de Castelnau, ça va être Timothée Quinson qui le dirige au début, qui est là-bas. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà. Donc, le mardi, une semaine sur deux aussi. Timothée qui me dit que le lieu n'est pas encore 100% décidé. Ouais, ça va être l'est de Montpellier, normalement accessible en transport en commun, tu m'as dit aussi. Ouais. On dit non, on n'est pas sûr parce qu'on est en négociation avec la maison qui va accueillir le groupe cette année. Mais s'il n'y a pas de maison, ce sera ici, la maison du Seigneur, on va dire. Donc ce sera forcément dans Castelnau, les alentours de Castelnau. Super. Donc vous avez entendu, il y a moyen de covoiturer, il y a moyen de trouver voilà, peut-être quelqu'un qui va venir à un arrêt de tram chercher les personnes qui sont en route, si jamais c'est un petit peu loin du tram. Okay. Prochain groupe, j'espère qu'il y aura un peu plus d'enthousiasme, je m'attendais à Occitanie. Voilà. Ça c'est un nouveau groupe qui s'ouvre. Ouais, voilà. Grâce à Thibaut et Amandine qui ouvrent leur maison. Est-ce que vous pouvez vous lever pour ça? Et Mickaël et Louise qui vont les aider à animer tout ça. Donc merci à vous parce qu'ils nous manquaient un pied-à-terre dans le nord de Montpellier. Donc Occitanie, c'est vers Route de Gange. Hein. C'est pas trop loin du Trifontaine, du carrefour Trifontaine. Donc voilà, vers Hôpitaux Faculté. Après ça, il y aura une carte affichée au fond pour vous inscrire, pour que vous puissiez visualiser les choses. Merci à vous parce qu'il nous manquait quelque chose là-bas. Et donc c'est un nouveau groupe. Il y a déjà quelques inscrits. Mais voilà, c'est un groupe qui débute. Et voilà, autre chose. Vous aussi, vous pouvez aller au tram, tu m'as dit, pour récupérer à Occitanie. Donc, le tram, c'est l'arrêt de tram, c'est Occitanie. Donc, ça dessert le centre-ville, ça dessert la Mosson, Château d'Eau, tout ça.
On peut aller chercher les gens. Après, à pied, c'est une quinzaine de minutes.
Quinzaine de minutes à pied de l'arrêt de tram. Mais on vient chercher, il n'y a pas de souci. Ça, c'est beau, ça. Bien.
Oui, du coup, nous, on habite dans les Aubes avec Louise. Donc, moi, je prendrai ma voiture pour aller à Occitanie. Donc, on peut faire un point de début de covoiturage dans les Aubes. Et puis, on vous amène à Occitanie en voiture. Voilà.
Petite précision, quand il dit « je prends ma voiture », c'est que Louise ne court pas derrière. Ouais. Ils ont un petit bébé, donc pour le moment, elle va rester à la maison. Si vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je suis en train de prêcher, je suis en train de vous présenter des groupes maison, donc si vous avez des questions, allez-y. Prochain, Aiguelong, un autre nouveau groupe, avec Don et Christine. Celui-là, on l'a entendu depuis très très longtemps, parce que comme vous voyez, c'est un groupe en journée. Il n'y a pas encore le jour et l'heure, parce qu'il est en négociation, enfin en délibération avec les personnes qui se sont dit intéressées. Et donc voilà, tant qu'à faire, autant accorder les emplois du temps pour que ça arrange tout le monde. Cela dit, encore, il y aura possibilité de donner votre numéro de téléphone ou votre mail pour faire partie de ces délibérations. C'est déjà fait ? À Aiguelong, pareil, Don il me dit qu'il peut aller chercher soit sur la ligne 2 à Aiguelong, soit sur la ligne 1 à Saint-Éloi. Voilà, donc celui-là, il y a deux lignes qui peuvent le desservir. Voilà. Il gagne le challenge. et il y avait d'autres choses ? Donc soit vendredi après-midi, soit mardi après-midi, 14h à 16h pour les deux. Une semaine sur deux. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pourrez écrire vos contacts. Prochain, Mogyo. Ah, c'était sûr que ça allait être les plus bruyants. Donc Mogyo, un mardi soir, une semaine sur deux, à Moggio, parce qu'il n'y a pas vraiment de quartier à Moggio aussi. Non. Isabelle et Paulette, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Si vous avez des questions sur ce groupe-là, c'est ces visages-là qu'il faut aller voir. Et voilà, c'est ce groupe-là qui mange ensemble, si vous êtes gourmand. À 19h, parce qu'ils se réunissent vraiment à 20h, mais à 19h, ils mangent ensemble. Par contre, là, il faut la voiture. Ouais, il faut la voiture pour aller chercher. Il n'y a pas de... Voiture ou bien covoiturage. Voilà. Question ? Non ? Continue ? Ah, le groupe hispanophone. Bon, je me suis trompé. C'était pas vous les plus bruyants. Bon, on va monter le son parce qu'on... Alors, comme son nom l'indique, c'est un groupe qui a vocation à accueillir les Sud-Américains. Je dis Sud-Américains parce qu'il y a des Brésiliens qui se sont ajoutés et on ne va pas leur faire l'insulte de dire qu'ils sont hispanophones. Mais ils font l'effort. Ouais. Donc les vendredis soirs, quartier Hôtel de Ville, c'est ça, Luciana, ton quartier Rive du Lez. Ah, je me suis trompé. Quartier Rive du Lez, dans un très bel appartement. Donc les vendredis soirs, une semaine sur deux. Francisco et Jeannette, est-ce que tu peux te lever? C'est Monsieur Sifflet. Est-ce qu'il y a des précisions pour toi? C'est quelle? C'est une, deux et trois même, non? Quatre. Ouais. Il y a de bon, c'est eux qui gagnent en fait. C'est tous les trams, ils viennent. Pas besoin de covoiturage. Juste la carte de tram qui sera gratuite bientôt. Ok, super. Prochain. Groupe étudiant. Donc, est-ce que les responsables peuvent se lever, s'il vous plaît? Où est-ce que vous êtes? Ouf, oh, pardon. Il est où, Quentin? Et Marie-Alice aussi, vous allez donner un coup de main, on m'a dit. Ben, lève-toi. Voilà. Et Quentin, c'est celui qui courait après le petit bonhomme qui voulait tout défoncer. Donc c'est Quentin et Claire-Élise qui dirigent ce groupe et Alice et Marie vont leur donner un coup de main cette année. Tu t'es pas levé? Je t'avais pas vu. Vas-y. Voilà. Donc eux vont se réunir le dimanche soir, une semaine sur deux, et ils font une réunion de prière sur Zoom tous les mercredis matin. Voilà. Ça envoie du lourd. Donc c'est chez Claire-Élise et Quentin, mais lui aussi est amené à bouger, mais pas forcément avec des lieux déjà définis. Donc voilà. La base, on va dire que c'est chez Claire-Élise et Quentin. Voilà, prochain, il en reste groupe de Béziers. Bon, il n'y a personne aujourd'hui parce que ça fait loin et ils ne viennent pas... Ah, ils ne sont pas juste restés chez eux parce que c'est loin et qu'ils viennent une fois par mois, mais parce qu'il y a aussi une rencontre à Gignac une fois par mois. Et donc le groupe de Béziers participe à ça. Voilà, groupe de Béziers. On le présente aussi parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens parmi vous qui viennent de loin. Donc eux, c'est soit le mercredi, soit le jeudi parce qu'ils ont des emplois du temps variables d'une semaine à l'autre. Toutes les semaines, eux... Voilà, ils sont réguliers encore plus. Chez Jeff et Rose, pour ceux qui les connaissent. Je ne peux pas vous dire quel quartier de Béziers, je ne connais pas du tout la ville. Mais voilà, c'est à Béziers. Je pense que c'est la dernière, mais est-ce que tu peux encore passer la diapo, s'il te plaît? Voilà. Si vous souhaitez intégrer un groupe, j'espère qu'on a bien fait la promo, merci de vous inscrire sur les fiches papier. Le responsable du groupe vous recontactera. Donc j'ai créé un petit carton là, avec une carte, un listing. Ça devait tenir sur le petit rebord là, mais ça ne tient pas. Donc on va trouver un moyen, peut-être là, ou je ne sais pas, juste le mettre sur des chaises. Il y a un code couleur, si vous savez oublier exactement où est-ce que c'est Occitanie, il y a un code couleur pour retrouver un petit point dans le quartier. Ça tient finalement. Et si vous ne faites pas partie d'un groupe, vous voulez être recontacté par le responsable, vous mettez nom, prénom et contact, mail ou téléphone, ou c'est quoi, Snapchat, je ne sais pas. Non, vous mettez un moyen qu'on puisse vous contacter, et puis le responsable, il va venir regarder le listing, et puis il vous recontactera. Ok ? Si vous ne faites pas partie d'un groupe, je vous invite vraiment à le faire, parce que c'est fort ce qui s'y passe. Et voilà. On va s'arrêter là. Je vais prier pour finir. Et après, on aura un apéro là-bas. Papa, merci pour la famille que tu m'as donnée, que tu nous as donnée à chacun. Merci pour l'Église qui nous accompagne dans notre marche avec toi, qui nous dirige, qui nous forme, qui nous aide à ce que tu nous transformes, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette Église, parce qu'on n'a pas été créé pour être seul, on n'a pas été créé pour être dans quelque chose d'individuel, mais de collectif. Donc tu as pourvu à ce besoin, Seigneur. Et je te prie d'avoir ta main sur les groupes maisons cette année. Je te prie de les bénir largement, de donner une profondeur dans la relation qu'ils ont, que les membres ont les uns avec les autres, que tu puisses donner des temps de où ta présence est vraiment forte, Seigneur, dans la prière, dans la louange, que tu puisses donner à chacun des temps d'ouverture, de lecture de ta parole, qui puisse vraiment être amener de la lumière sur des zones de doute ou d'ombre ou de méconnaissance, Seigneur. Je te prie que vraiment il puisse y avoir une communication fluide, que tu puisses apaiser les liens et que vraiment ces moments, ce soient des moments bénis par toi, Seigneur. Que ce soit une année où les groupes maisons puissent vraiment avoir un regard aussi sur l'extérieur, vers les plus démunis, vers ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et qu'il puisse y avoir des projets qui soient doucement construits, qui puissent porter du fruit, Seigneur. Donc, Seigneur, sois avec nous, donne-nous la grâce de nous motiver, de nous envoyer pour ton royaume, Seigneur, parce qu'on veut que nos vies, on veut que cette Église te rende gloire. Amen.
Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour les groupes de maison. N'oubliez pas de vous inscrire pour le week-end d'église. Et une annonce que j'ai oublié de faire, c'était que le vendredi 29 septembre, il y a une soirée louange.